Les Années-Lumière, édition du 1er mars 2009. Les nanotechnologies, merveilles de la science ou périls invisibles, nous vous présentons un bar des sciences, Radio-Canada Québec Science, enregistré à Sherbrooke. Bonjour, ici Yannick Villedieu, l'équipe. Bienvenue à cette nouvelle édition du magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. Alors, ce bar des sciences, c'est en deuxième heure qu'on vous le présente, mais pour commencer la première heure, Chantal de Srivastava, vous apprenez que les baleines sont blanchies.
Pour être bien franche, Yannick, les biologistes savent depuis un bon moment déjà que, contrairement à ce que soutient le Japon, les baleines ne sont pas responsables du déclin des stocks de poissons. Mais ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'une étude scientifique vient enfin de le prouver.
Sophie-André Blondin, la NASA essuie un nouvel échec.
Un échec, en tout cas, son premier satellite d'étude des gaz à effet de serre s'abîme en mer au lieu de partir en orbite.
Et après le courrier des années-lumière, une question sur le contrôle de la vitesse chez les motocyclistes, entre autres. Puis nous aurons la chronique. Marie-Dominique Beaulieu parle de l'asthme, trop ou pas assez diagnostiqué par les médecins. Quant à la deuxième heure, bien sûr, elle sera entièrement consacrée aux nanotechnologies. Mais pour commencer donc, les baleines. Alors, vous le savez, afin d'assurer la survie de plusieurs espèces de baleines menacées d'extinction, depuis 1986, il y a un moratoire mondial qui interdit la chasse à la baleine à des fins commerciales. Mais certains pays comme la Norvège, l'Islande, le Japon réclament tous les ans, chaque fois que se réunit la commission baleinière internationale, qu'on mette fin au moratoire. Une guerre à finir qui vient par ailleurs de retenir l'attention des députés au Parlement européen, Chantal.
Tout à fait, Yannick. Et cette fois-ci, ceux qui s'opposent à la reprise de la chasse commerciale ont marqué des points, puisqu'à la mi-février, le Parlement européen a adopté par une très large majorité un rapport qui recommande non seulement le maintien du moratoire sur la chasse à la baleine, mais également l'arrêt de la chasse dite à des fins scientifiques. Parce que, donc, cette pratique qui est faite entre autres par le Japon ne serait qu'un paravent pour écouler des produits dérivés des baleines sur le marché commercial. Une accusation, il faut le dire, qui refait régulièrement surface.
Effectivement, comme les baleines d'ailleurs. Le moratoire a été imposé en 1986. Chantal, est-ce qu'on a une idée de son efficacité pour protéger les baleines?
Le problème, c'est que les données sont incomplètes. D'ailleurs, la moitié des quelques 90 espèces de baleines sont classées dans la catégorie dite « données insuffisantes ». Alors, ce qu'on sait par contre, c'est que selon le plus récent rapport de l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui date de l'été dernier, les populations de baleines à bosse et de baleines franches semblent se rétablir grâce au moratoire. Par contre, globalement, près du quart des espèces de baleines sont menacées et même que 9 d'entre elles, soit 10 % des espèces, sont considérées comme étant en danger, voire même en danger critique d'extinction. Donc, la partie est loin d'être gagnée pour les baleines.
Et pourtant, il faut le dire, on l'a dit il y a quelques secondes, chaque année, les promoteurs de la chasse à la baleine redoublent d'efforts pour qu'on mette fin à ce moratoire.
Et même qu'ils se basent de plus en plus, Yannick, sur la science pour faire avancer leur point de vue. Les scientifiques japonais de l'Institut de recherche sur les cétacés disent par exemple que parce que les baleines mangent des poissons, elles entrent donc en concurrence avec la pêche commerciale. Un argument auquel certains États côtiers des zones tropicales, pour qui la pêche commerciale est très importante, donc sont très sensibles à cet argument, vous pouvez l'imaginer. Sauf que ceux qui connaissent bien la biologie des baleines savent que cet argument ne tient pas la route. D'ailleurs, un article publié tout récemment dans la revue Science réfute, données à l'appui, cet argument. La biologiste Lynn Morissette, qui est spécialisée en écologie marine, a co-signé cet article. Elle est chercheure postdoctorale à l'ISMER, l'Institut des sciences de la mer, qui est rattaché à l'Université du Québec à Rimouski. Elle nous explique tout d'abord ce qu'elle et ses collègues ont découvert en utilisant des modèles de simulation qui permettent de prendre en considération l'écosystème marin dans son ensemble.
Nos résultats démontrent clairement que les baleines ne sont pas en compétition pour les ressources marines. Et plus spécifiquement, il y a un des arguments qui est très important ici, c'est que là où cet argument-là est utilisé par les Japonais, c'est dans les eaux tropicales. Et les eaux tropicales, ça représente pour les baleines dont il est question ici, donc les baleines à fanon, dans les zones tropicales, elles se reproduisent. Et en période de reproduction, les baleines ne s'alimentent pas ou très peu. Les études varient entre aucune alimentation et 10 % de ce qu'on mangerait en temps normal en période d'alimentation. Donc, c'est un peu aberrant et c'est pour ça qu'il n'y a aucune étude qui a jamais été faite avant la nôtre sur ça, parce que scientifiquement, les scientifiques s'entendent depuis longtemps à savoir que les baleines ne s'alimentent pas dans les zones tropicales.
Ça, c'est pour les zones tropicales. Et ailleurs, dans les zones plus froides, est-ce qu'il pourrait y avoir un lien entre la consommation du poisson par les baleines et l'effondrement des stocks disponibles pour la pêche commerciale?
Bon, dans les zones d'alimentation, donc les eaux plus froides, comme dans le nord de l'Atlantique, par exemple, oui, les baleines s'alimentent. Et une autre étude sur laquelle j'ai travaillé, mais qui n'est pas encore publiée, démontre que même dans les zones d'alimentation, on n'a pas une relation directe entre... Quand on fait une simulation, par exemple, d'une diminution de l'abondance des baleines dans ces écosystèmes-là, les écosystèmes où les baleines s'alimentent, même dans les zones d'alimentation, on n'a pas nécessairement une augmentation de poissons parce qu'on a enlevé ces prédateurs de l'écosystème. Donc, c'est pas linéaire comme ça dans les écosystèmes.
Ce qui est troublant, Mme Morissette, et vous devez le savoir encore plus que moi, c'est que vos résultats contredisent vraiment ce que disent des scientifiques japonais. Je citerai un chiffre. Ils disent que les cétacés consomment chaque année de 249 à 436 millions de tonnes de ressources marines et que cela constitue de 3 à 6 fois plus que les pêcheries commerciales. Ce que vous dites, c'est le contraire.
Cet argument-là est basé sur des études de contenus stomacaux. Donc, on prend les baleines qui sont échantillonnées par les Japonais, on leur ouvre l'estomac, on pèse la quantité de ressources marines qu'il y a à l'intérieur et on multiplie ça par le nombre de baleines qui sont dans les océans et on extrapole un chiffre faramineux comme ça. Nous, ce qu'on fait, c'est on va voir dans les écosystèmes en question où ces arguments-là sont utilisés. Est-ce que c'est vrai que les baleines mangent autant que ça? Dans le cas des tropiques, c'est totalement faux. Les baleines ne mangent pas dans ces écosystèmes.
Et justement, le fait que vous modélisiez des écosystèmes, Mme Morissette, vous amène à faire des conclusions quant à la nature de la compétition entre les cétacés et les pêcheries, entre autres sur le régime alimentaire qui est différent dans certains cas de ce qu'on consomme lorsqu'on fait de la pêche commerciale.
Oui, en effet. Dans nos études, ce qu'on a fait, on a comparé le régime alimentaire des différentes espèces de baleines qu'on retrouve dans ces écosystèmes avec, si vous voulez, le régime alimentaire de la pêcherie, les flottilles locales et étrangères qui pêchent dans ces mêmes écosystèmes. Et quand on compare les deux régimes alimentaires, on se rend bien compte que c'est pas du tout la même composition. Donc, les baleines vont manger des poissons beaucoup plus petits, alors que les pêcheries, évidemment, s'en prennent aux plus gros poissons de l'écosystème.
À la lumière de ce que vous avez utilisé comme variable dans cette modélisation des écosystèmes, Mme Morissette, est-ce que vous avez pu isoler l'effet lié à la présence des baleines sur l'écosystème, sur les stocks disponibles par rapport aux pêcheries? Est-ce que vous avez pu vraiment isoler cette variable-là avec baleines, plus de baleines, moins de baleines? Qu'est-ce que ça change?
Oui, bien, deux points ici que je voudrais mentionner. Premièrement, ça n'a pas été le sujet de notre analyse, mais on s'est penché sur un peu l'historique de l'abondance des baleines dans ces écosystèmes-là. Puis ce qui est intéressant de noter, c'est qu'au début du siècle, au début des années 1900, alors que la baleine n'était pas beaucoup chassée ou à peine, les stocks de baleines étaient donc beaucoup plus importants que ce qu'on a présentement dans les océans. Et à ce moment-là, la pêcherie où les poissons étaient présents aussi et tout le monde était content et tout se portait bien. Maintenant, ce fait-là, ce que ça reflète, c'est que le déclin des poissons et la crise dans les pêcheries présentement est clairement le fruit d'une surexploitation et non pas de la présence des baleines. Quand on avait plus de baleines, les poissons étaient là quand même. Et ce que nos résultats à nous ont permis de démontrer davantage, c'est que non seulement les baleines ne semblent pas être la cause du déclin, mais les baleines, comme toutes les espèces faisant partie d'une chaîne alimentaire, mais les prédateurs, c'est vraiment particulier pour les prédateurs dans l'écosystème, ils ont un rôle structurant aussi.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que la présence des baleines dans l'écosystème peut de façon globale, être bénéfique pour une majorité d'espèces dans la chaîne alimentaire. Le fait d'avoir les baleines dans l'écosystème peut bénéficier à plusieurs espèces parce que les baleines vont manger certains types de poissons ou du plancton qui, dans le cas des poissons, par exemple, vous pouvez imaginer une baleine qui mange un poisson qui est en compétition avec un autre poisson dans l'écosystème. Donc, le fait que la baleine ait une espèce de contrôle sur la population de proie peut devenir bénéfique pour d'autres espèces de l'écosystème. Donc, une chaîne alimentaire, c'est organisé pour que toutes les espèces fonctionnent les unes avec les autres.
Bien, je vous remercie beaucoup, Lynn Morissette, pour toutes ces précisions. Merci.
Ça me fait plaisir.
Au revoir.
Au revoir.
Donc, la biologiste Lynn Morissette de l'ISMER, l'Institut des sciences de la mer de Rimouski, qui a signé tout récemment dans la revue Science un article dont les conclusions sont on ne peut plus claires. Hein. Les baleines ne sont pas responsables de l'effondrement des stocks de poissons. Point.
Point. Et cette conclusion sera communiquée, Yannick, aux membres du comité scientifique de la fameuse commission baleinière internationale lorsqu'ils vont se réunir un peu plus tard cette année. Et d'ailleurs, fait intéressant à noter, la CBI, comme on l'appelle, de même que les pays des zones concernées, tant en Afrique de l'Ouest que dans les Caraïbes, ont été consultés par Lynn Morissette et ses collègues qui ont même tenu des ateliers sur la question de la présumée concurrence entre baleines et poissons. Daniel Poli, qui est spécialiste mondialement reconnu des pêcheries et qui est rattaché à l'Université de Colombie-Britannique, a participé à un atelier du genre qui s'est tenu en mai dernier au Sénégal. C'est un ancien professeur de Lynn Morissette. Il a d'ailleurs co-signé avec elle et d'autres l'article dans Science. Mais surtout, en marge de cette rencontre au Sénégal, il a pris le temps d'écrire un autre texte, un commentaire publié en ligne par l'organisation non gouvernementale Landfest qui a endossé le projet de recherche, un texte où il se vide le cœur parce que ce qu'il a pu constater lors de cette rencontre au Sénégal l'a amèrement déçu. Il explique pourquoi.
Il y avait une division très forte parmi les participants. Il y avait les participants qui représentaient le public, qui représentaient la société civile et qui représentaient le Parlement du Sénégal. Et ce groupe-là, ils étaient en faveur de s'occuper des problèmes qui sont là et non pas de faire des âneries. Et il y avait les représentants du département des pêches de 4 ou 5 pays qui avaient tous adopté la ligne « il faut étudier les baleines parce que c'est elles qui nous détruisent toutes nos ressources ». Et vous savez, la plupart d'entre eux, je les connais d'avant, beaucoup d'entre eux ont pris des cours auprès de moi. J'ai enseigné la dynamique des populations, j'ai enseigné la gestion des pêches à plusieurs d'entre eux. Et je sais très bien qu'ils n'ont jamais travaillé sur les baleines. L'affaire, le petit article que j'ai écrit moi, en revenant de cet atelier, je l'ai écrit à l'aéroport et dans l'avion parce que j'étais tout triste, parce que je me rendais compte qu'ils sont forcés de dire des âneries, mais le département des pêches, il faut le dire aussi, est corrompu. On a payé 2 ou 3 membres élevés du département des pêches et ça suffit pour que tout le reste doive suivre. Ça se fait à l'étranger parce que les délégations des pays d'Afrique occidentale et des pays des îles des Caraïbes qui vont au congrès des baleines.
La commission baleinière.
Les délégués, je pense qu'on leur passe des enveloppes. Et quand ils reviennent, il faut ou bien qu'ils ne parlent pas de ce qu'ils ont voté, parce que la plupart du temps, par exemple au Sénégal, le public ne le sait pas. Ou alors il faut qu'ils racontent des âneries. Et ces âneries, il faut qu'ils les fassent passer auprès des scientifiques. Donc on les force à accepter le fait que ça pourrait être les baleines. Alors que tout le monde le sait que c'est la pêcherie qui est la cause du déclin des ressources. Et quand le papier a été soumis à Science, j'ai pensé qu'il ne serait jamais publié.
Pourquoi?
Parce qu'en fait, c'est des âneries. Parce que nous réfutons des âneries. C'est comme si on écrivait un papier dans Science pour prouver que le Père Noël n'existe pas.
Effectivement, hein, il se défend, Monsieur Pauly, hein, biologiste donc à l'Université de la Colombie-Britannique. Prochaines étapes dans la question, dans le dossier, Chantal?
Mais tout d'abord, voir ce qui va se passer à la prochaine réunion de la Commission baleinière internationale au Portugal, un peu plus tard cette année, mais surtout à plus court terme, demain, Yannick, l'Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation, la FAO, va soumettre son rapport biannuel sur l'état mondial des stocks de poissons, fort à parier que ce sera lié à la surpêche, aux mauvaises pratiques de pêche plutôt qu'aux baleines.
Je parie avec vous. Merci beaucoup, Chantal.
Vous en prie.
Ici Louis-André Bertrand, journaliste au site Internet des Années-Lumière. Je vous rappelle que votre magazine d'actualité et de culture scientifique est disponible sur le web à l'adresse radio-canada.ca/lumière et également en diffusion par satellite sur la chaîne Première Plus dès samedi 17h. Vous pouvez même emporter l'émission dans votre poche en vous abonnant à la balado-diffusion sur notre site Internet ou en syntonisant notre flux MP3 en direct le dimanche. Il n'y a plus d'excuses pour manquer les Années-Lumière avec Yannick Villedieu.
Certainly for the science community, it's a huge disappointment. It's hard, and even when you do the best you can still fail. So it's a tough business.
Ouais, une immense déception, vient-on d'entendre. Un monde sans pitié, là. Les représentants de la NASA avaient vraiment la mine très basse quelques heures après avoir perdu un satellite à cause d'une anomalie du lanceur qui venait, ou qui devait plutôt, le mettre en orbite. OCO, le Orbiting Carbon Observatory, devait mesurer les concentrations de dioxyde de carbone dans l'atmosphère terrestre. Il a plutôt fini dans l'océan Pacifique, presque en Antarctique, il faut dire. Une mission spatiale qui tourne court, Sophie-André Blondin, et ce sont quelques centaines de millions de dollars qui, hein, littéralement, tombent à l'eau.
Effectivement, 270 millions, pour être plus précis. OCO, ce satellite était placé au bout d'un lanceur Taurus, et la coiffe du lanceur ne s'est pas ouverte. La coiffe, c'est comme un écrin qui est au bout du lanceur, sur la tête, qui protège le satellite pendant les trois premières minutes du vol. C'est un écrin qui est lourd et qui s'ouvre et qui ensuite se détache et tombe. Et quand le lanceur perd sa coiffe, il devient plus léger. Il subit donc une poussée d'accélération qui lui permet de s'arracher à l'attraction de la Terre. Et comme la coiffe du satellite OCO ne s'est pas ouverte, le lanceur est demeuré trop lourd pour atteindre l'orbite et il est retombé sur Terre. En Belgique, Théo Pierard vulgarise la science de l'espace via, entre autres, le Space Information Center. Il analyse pour nous ce qui s'est passé.
Le satellite est enfermé dans cette coiffe au moment de ses préparatifs et lors du lancement, c'est elle qui va protéger le satellite de l'humidité, aussi de la traversée des couches denses de l'atmosphère. Donc, elle est larguée au bout de 3 minutes.
Et là, ça ne s'est pas produit. Est-ce que c'est arrivé souvent? Est-ce que c'est souvent une cause d'échec?
Dans le passé, oui, c'est déjà arrivé que les fusées avaient leur coiffe qui ne se défaisait pas. Donc, ça, c'est arrivé. Maintenant, c'est une chose qui paraît assez étonnante. Ça, c'est presque une faute de débutant, je dirais. Il faut dire aussi que le Taurus est utilisé depuis 1994, et il n'est pas beaucoup utilisé. Un lanceur qui n'est pas beaucoup utilisé fait que on ne le maîtrise pas aussi bien qu'un lanceur qu'on utilise pratiquement tous les 2 mois.
Théo Pirard du Space Information Center de Belgique. Donc, l'échec de ce lancement de OCO, j'imagine, Sophie-André, a dû causer une bonne onde de choc dans la communauté scientifique aussi. Hein?
Oui, absolument, puisqu'OCO était une mission scientifique et non commerciale. Et les satellites commerciaux sont assurés. Ce n'est pas le cas des satellites scientifiques.
Ah, non, non.
Donc,
mm-hmm.
La perte est totale. Ensuite, OCO devait mesurer les concentrations de dioxyde de carbone autour de la Terre, cueillir des données qui sont vraiment à la fine pointe de l'étude du climat et des cycles du carbone. Donc, il y a plusieurs équipes partout dans le monde qui attendaient les données d'OCO. C'est le cas, par exemple, de Frédéric Chevalier du Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement à Paris. Ses travaux touchent les flux de carbone. Il s'attendait à contribuer à expliquer pourquoi ou comment la nature nous fait un cadeau, c'est-à-dire comment elle absorbe avec les océans, avec les forêts, la moitié du carbone que nous brûlons.
Ce cadeau que nous fait la nature, nous aimerions savoir quels sont les processus en jeu, où ces processus se mettent en place, à quelle période de l'année, quelles années en particulier. Parce que si aujourd'hui la nature nous fait cadeau de la moitié de ce que nous émettons, ça ne sera pas forcément le cas demain, ça sera peut-être plus, ça sera peut-être moins. Il est vraiment crucial pour gérer les changements climatiques et notre responsabilité dans ces changements de mieux comprendre les mécanismes en jeu sur toute la chaîne. Mais nous manquons encore des données cruciales. OCO devait nous permettre justement de pousser les limites. Il faudra trouver d'autres solutions.
Parmi les autres solutions, il y a en ce moment un autre satellite japonais qui possède des instruments de mesure. Est-ce que l'instrument japonais, les instruments de mesure à bord, vont vous servir de plan B?
Alors, de plan B, les instruments japonais faisaient de toute façon partie du plan A.
Oui.
Donc, il n'y a pas de plan B, malheureusement, en tout cas pas dans l'immédiat. Nous étions soulagés de pouvoir bénéficier de deux instruments plutôt que d'un seul. Si vous regardez un petit peu en comparaison ce qui se passe pour la prévision de la météorologie, la prévision de la météorologie ne s'appuie pas sur un seul instrument satellitaire, heureusement. Eh bien, pour le cycle du carbone, nous espérons mettre en place quelque chose de similaire.
Frédéric Chevalier du Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement à Paris. Alors, ces espoirs, on l'entend, sont déçus, ça va de soi pour le moment, parce que il faudra satisfaire des seules données du satellite japonais dont il vient de parler, un satellite qui est en orbite, hein, Sophie Henry, depuis peu.
Oui, et il y a un petit peu de nous autres dedans.
Ouais.
Il s'agit du projet GOSAT sur le satellite surnommé Ibuki qui a été lancé avec succès, celui-là, à la fin du mois de janvier. Et à bord, on trouve des instruments de la firme ABB à Québec. Le satellite prend 56 000 points de mesure tous les trois jours. Il mesure deux gaz à effet de serre, le CO2 et le méthane. Alors maintenant, tous les yeux sont rivés sur les données du satellite japonais. La pression vient de monter d'un cran pour Marc-André Soucy, qui est directeur de l'industrie de la télédétection chez ABB, qui a conçu un instrument crucial à bord.
Nous, ce qu'on fait chez ABB, on a fourni le cœur du spectromètre à transformer de Fourier. On peut dire que c'est la composante la plus critique dans un certain sens, parce que c'est vraiment le cœur du système.
Maintenant, GOSAT se retrouve seul. Si tout avait bien fonctionné, il y aurait OCO aussi, qui serait peut-être un peu un compétiteur, mais aussi un compagnon. Qu'est-ce que ça change pour votre mission à vous, le fait que la mission OCO n'ait pas fonctionné, n'ait pas réussi à atteindre l'orbite?
Ben, dans un premier temps, je vais vous rassurer que la mission OCO n'était pas vraiment un compétiteur, mais vraiment plus un compagnon, comme vous l'avez aussi mentionné. Pour avoir parlé beaucoup aux scientifiques japonais, à l'agence spatiale japonaise, ils sont très tristes et déçus, comme toute la communauté, suite à la perte du satellite OCO. Maintenant, évidemment, tous les yeux sont rivés sur la mission GOSAT. Ça va probablement rendre un peu plus difficile la calibration et la validation des données du satellite. Puis, évidemment, la pression est plus grande sur le projet Ibuki pour que les données soient rendues disponibles à la communauté le plus rapidement possible.
Marc-André Soucy est le directeur de l'industrie de la télédétection chez ABB à Québec. Alors, Sophie-André, est-ce que la mission GOSAT va rester longtemps seule en orbite pour mesurer là, les fameux gaz à effet de serre?
Ben, la NASA doit décider si elle reconstruit son satellite OCO et si elle va de l'avant, il faudra compter au moins 3 ans. Mais d'ici là, en juin, il y a un autre satellite scientifique de la NASA, GLORY, qui doit aller mesurer, cette fois-ci, les suies, les aérosols dans notre atmosphère. Mais GLORY doit quitter la Terre à bord d'un lanceur Taurus aussi.
Oui, oui.
Avec l'échec de cette semaine, on est loin avec Taurus des taux de réussite qu'on atteint globalement dans le monde des lanceurs. Là-dessus, les explications de Michel Aymard, qui est directeur des lanceurs au Centre national d'études spatiales à Paris.
On est aujourd'hui autour de 90% si je mélange tous les systèmes de lancement autour du monde. Il y en a pour certains systèmes qui sont très très fiables, les lanceurs Soyouz. 1700 lancements, ils ont eu des échecs, mais la fiabilité est extrêmement grande. On commence avec Ariane 5 à avoir un très bon niveau de fiabilité. On a eu des problèmes au début lorsqu'on a mis en œuvre ce lanceur, mais on est à des niveaux de 0,96 en fiabilité démontrée, ce qui est très important.
Alors, quand on regarde, par exemple, la feuille de route de Taurus, 8 essais, 2 erreurs, là, c'est une feuille de route moins impressionnante.
Oui, mais là aussi, si on raisonne sur la maturité du système de lancement, quand on est au début, et c'est ce qui nous est arrivé avec Ariane 5, on a eu des problèmes parce qu'on découvrait le lanceur, on est dans la phase de maturation où on apprend le fonctionnement du lanceur. Vous savez, un lanceur, c'est pas comme un avion où on peut découvrir le domaine de vol progressivement. Le lanceur, dès le début, vous allez, comme on dit, plein pot sur l'orbite et vous avez les efforts maximaux, l'énergie maximale dès le début. Alors que sur un avion, vous pouvez y aller tranquillement, sur une voiture, c'est pareil. Et c'est là la difficulté des lanceurs. Donc il y a toute une phase de maturation dans laquelle les risques sont très importants. Et on apprend et des fois on a des grosses anomalies, voire des échecs.
Michel Aymard du CNES, le Centre national d'études spatiales en France. Alors, le manque d'expérience du lanceur peut expliquer en partie l'échec du lancement du satellite OCO cette semaine. Pourtant, il y a des fusées, il y a des lanceurs. On sait comment on construit. On en fait depuis la fin des années 50 quand même.
On continue à en fabriquer beaucoup puisqu'il se fait entre 50 et 70 lancements par année. Mm-hmm. C'est une cadence qui ne va pas diminuer parce que le nombre de joueurs dans l'espace est en augmentation avec l'arrivée des joueurs de l'Asie. Et effectivement, les lanceurs de l'extérieur ont l'air d'avoir peu changé depuis toutes ces décennies. Mais ce sont des apparences trompeuses, nous avertit le directeur des lanceurs au CNES, Michel Aymard.
Vous savez, vu de loin, on peut dire que ça n'a pas beaucoup changé. C'est comme une voiture. Mm-hmm. La voiture du début du siècle, on peut dire qu'elle avait le même moteur que la voiture d'aujourd'hui. Mais dans les faits, quand vous regardez, il y a beaucoup de différences. Les technologies ont beaucoup évolué et les lanceurs d'aujourd'hui sont beaucoup plus performants que les lanceurs des années 50.
Et où est-ce qu'on a amélioré les performances?
Alors c'est principalement la propulsion, c'est-à-dire les moteurs qui permettent donc de générer des poussées très importantes pour s'arracher de la Terre. On a aussi fait des évolutions au niveau système, les systèmes de guidage, toute l'aérodynamique de nos lanceurs, ça fait l'objet de travaux de recherche qui nous ont permis d'avoir des systèmes extrêmement performants aujourd'hui.
Est-ce qu'il a fallu adapter les lanceurs à l'évolution des satellites eux-mêmes ou des charges utiles qu'on doit arracher à l'orbite terrestre?
Oui, on a toujours une course entre les lanceurs et les satellites. Quand un lanceur grossit, le satellite grossit. Ce qu'on constate, c'est que les satellites de télécommunication demandent beaucoup plus de puissance. On a multiplié par 10 la puissance de ces satellites en quelques années, et ce qui permet d'avoir des chaînes de télévision multiples, de pouvoir arroser beaucoup de régions autour du monde. Et donc, si vous voulez, on a aujourd'hui des satellites qui, il y a quelques années, pesaient 3 tonnes. Aujourd'hui, ces satellites-là font 7 tonnes. Donc on a assisté effectivement à un mouvement d'accroissement de la masse. Et à contrario, il y a certains satellites d'observation, par exemple, qui sont des optiques, qui regardent la Terre, qui eux ont diminué en masse. Donc on a des mouvements très variés suivant les applications des satellites. En tout cas, aujourd'hui, on a des satellites qui sont petits, et puis on a des satellites qui sont très très gros.
Si on regarde un peu dans l'avenir, quels sont les prochains lanceurs? Est-ce qu'on va voir émerger une nouvelle génération?
On travaille actuellement sur la définition de ce que seront les nouvelles générations de lanceurs. Donc on est en train d'étudier des concepts qui auraient moins d'étages que nos lanceurs actuels pour diminuer d'une part le coût, augmenter la fiabilité. On travaille sur des concepts plus versatiles, c'est-à-dire que, notamment sur l'étage supérieur, on aura beaucoup plus de capacité à changer une orbite pour pouvoir lancer plusieurs charges utiles. Donc on est en train de regarder des concepts nouveaux et on regarde même des systèmes qu'on pourrait réutiliser, c'est-à-dire qui reviendraient sur Terre, qu'on reconfigurerait pour un nouveau lancement et donc des systèmes qui seraient réutilisables.
Le directeur des lanceurs au CNES, Michel Aymard.
Si l'avenir des lanceurs spatiaux porte comme ça certaines promesses, le départ avorté du satellite Orbiting Carbon Observatory cette semaine a été un rappel brutal que le présent, lui, n'est pas à l'abri des imprévus. Comme le disait le porte-parole de la NASA au début du reportage, it's a tough business.
Oui, il n'y en aura pas de facile, ça veut dire. Merci beaucoup, Sophie André.
Plaisir.
Thank you. Vous écoutez Les Années-Lumière, le magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. À venir en deuxième heure, un bar des sciences sur les nanotechnologies.
Il ne faut pas se leurrer, hein, les chercheurs, pour toutes sortes de raisons, que ce soit curiosité, que ce soit économique, que ce soit autre, avec les moyens qu'ils ont à la disposition en ce moment, ça se développe excessivement vite. Puis si on ne se pose pas les questions suffisamment rapidement, si l'accompagnement n'a pas lieu du côté société, les technologies vont être là avant qu'on aille pu réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire avec.
C'est maintenant l'heure du courrier. Voici la question de la semaine.
Bonjour, mon nom est Pierre Lessard. Pour le domaine des policiers qui utilisent des guns au laser pour évaluer les limites de vitesse des voitures, il y a des motocyclistes qui circulent sur les autoroutes qui sont à corps ouvert, c'est-à-dire que leur corps sur la moto n'est absolument pas protégé par une carcasse de métallique telle une voiture. Et pour prendre la vitesse, les policiers vont pointer le laser en direction du corps humain du motocycliste. Est-ce que c'est dangereux? Quels sont les effets? Y a-t-il des études qui ont été faites là-dessus? Quel impact que ça peut avoir? Et pourrait-on faire bannir cette pratique-là? Pierre Lessard, merci.
Alors, pour répondre à M. Lessard, Chantal de Srivastava a joint Jean de Montigny, qui est policier retraité du service de la police de la ville de Montréal. Il est aujourd'hui instructeur et coordonnateur en sécurité routière à la direction du perfectionnement professionnel à l'École nationale de police du Québec.
Bonjour, Monsieur de Montigny.
Bonjour, madame.
Alors, première chose, est-ce qu'on utilise vraiment des lasers pour déterminer la vitesse à laquelle circule un motocycliste ou un automobiliste?
Effectivement, les cinémomètres de type laser sont utilisés pour déterminer la vitesse des véhicules, que ce soit une motocyclette ou une automobile.
Un cinémomètre, là, pour qu'on s'entende bien, c'est ce qu'on appelle communément un radar, mais peut-être qu'on devrait l'appeler autrement.
Ce qu'on appelle communément des radars, c'est ce que utilisent les forces armées ou les aéroports pour déterminer la position des avions ou des bateaux, etc. Nous, on fait pas ça. On a des cinémomètres laser et des cinémomètres Doppler qui utilisent l'onde radio. L'appareil émet des ondes qui sont réfléchies par le véhicule en mouvement et le cinémomètre de type Doppler va analyser la différence entre les ondes émises et les ondes reçues. L'appareil fait le calcul et vous affiche la vitesse dans votre cinémomètre.
Et dans le cas du laser, qu'est-ce qu'il fait l'appareil précisément?
Il calcule le temps d'envol des impulsions et mesure le temps d'envol entre les différentes impulsions et leur retour à l'optique de l'appareil.
Quand on dit laser, souvent, les gens ont des craintes à cause des yeux. Ce motocycliste parle de circulation, donc à corps ouvert, sans être protégé par une carrosserie. Est-ce qu'il y a des risques liés à ça?
Il n'y a aucun risque pour le motocycliste. Il y a des directives, par contre, qui ont été émises par différents organismes qui ont fait des études. Et c'est dangereux de pointer un cinémomètre laser, le rayon laser, dans les yeux d'une personne à moins de 20 mètres. Par conséquent, si on pointe à 20 mètres et moins, il y a un danger pour de brûlures rétiniennes. Les policiers, lorsqu'on leur enseigne, c'est de pointer soit les phares d'un véhicule et si c'est une motocyclette, de viser le corps de la personne. À ce moment-là, il n'y a aucun effet parce que les policiers travaillent entre 100 et 150, 200 mètres. Donc, il n'y a vraiment aucun danger.
Est-ce qu'on utilise indistinctement là, les deux types de cinémomètres pour mesurer la vitesse, M. de Montigny?
Oui, les corps de police utilisent en général les deux types d'appareils, soit laser, soit Doppler.
Et qu'est-ce qui détermine qu'on va utiliser l'un ou l'autre?
C'est au bon gré du policier. Ça dépend des fois de la température. Ça peut dépendre de la densité de la circulation, etc.
Par exemple, il y en a un qui serait plus approprié dans une circulation très dense?
Dans une circulation très dense, le laser est approprié parce que si mon œil le voit, le laser va aller le chercher. Même s'il y a 12 véhicules, je peux pointer directement un véhicule de façon spécifique, alors qu'avec un Doppler, c'est plus difficile.
On est sûr qu'il n'y a pas eu de problème. On ne peut pas se ramasser avec le temps à découvrir que peut-être que oui, tout compte fait, il y a des difficultés qu'on n'avait pas envisagées au préalable et ainsi de suite.
Il y a des études qui ont été faites par des organismes américains, dont le NHTSA, le National Highway and Traffic Safety Administration. Et le laser sont sûrs. Ils sont classés dans quatre classes différentes et ceux de la police. Nos lasers de police sont dans la classe 1 qu'on appelle exempt ou eye safe.
Eye pour les yeux, là?
C'est ça, avec la mention spécifique de ne jamais pointer en deçà de 20 mètres. Nos lasers, en plus de donner la vitesse du véhicule, vont nous donner la distance à laquelle on a capté sa vitesse.
Dans les faits, là, on utilise couramment le laser depuis longtemps, M. de Montigny?
Les lasers sont utilisés ici au Québec depuis 1991, mais je dirais aux États-Unis peut-être depuis 1988-89.
Bien, écoutez, je vous remercie infiniment, M. de Montigny, pour toutes ces précisions.
Bien, je vous remercie.
Merci, au revoir.
Bonjour.
Chantal Srivastava s'entretenait avec Jean de Montigny, instructeur et coordonnateur en sécurité routière à la direction du perfectionnement professionnel de l'École nationale de police du Québec. Si vous avez, vous aussi, des questions, vous pouvez nous les poser par téléphone. De la région de Montréal, c'est le 514-597-6166. D'ailleurs, au pays, c'est le 1-800-752-9050. Il y a aussi le courriel lumière@radio-canada.ca. La chronique des années-lumière pour terminer cette première heure comme d'habitude. Cette semaine avec Marie-Dominique Beaulieu. Bonjour Marie-Dominique.
Bonjour.
Médecin en médecine familiale au Centre hospitalier de l'Université de Montréal, le CHUM. Marie-Dominique, vous voulez nous parler aujourd'hui de l'asthme. C'est une vieille histoire. Pourquoi revenir sur le dossier de l'asthme aujourd'hui?
Parce que, à la fin de l'année 2008, une étude canadienne assez importante a jeté un petit peu, je dirais, un pavé dans la mare et nous a fait nous questionner.
On aime ça. Oui.
Et donc, en fait, une étude très bien faite où on a testé des personnes qui se disaient asthmatiques, qui pensaient être asthmatiques. Et
qui
on
a
leur
eu
a fait...
un diagnostic d'asthme, oui.
Voilà. Mmh. Et pour découvrir qu'en fait, 30 % d'entre eux ne souffraient pas de cette maladie.
30 % une personne sur trois.
Oui. Voilà.
C'est énorme.
C'est énorme. Donc, alors que quand même, l'asthme est une maladie chronique très importante qui touche aussi beaucoup de gens jeunes ou dans la force
exact,
de l'âge.
Oui. Et on dit que ça augmente depuis des années.
C'est ça,
oui.
Depuis des années, on parle de l'augmentation de, on dit, de 75 % dans la dernière décennie au Canada. Et qu'on se fait souvent dire que, comme médecin, on ne fait pas le diagnostic assez souvent. Et comme patient, souvent, que les patients sous-estiment.
Et là, l'étude a plutôt l'air de dire que vous le faites trop souvent, le diagnostic. Oui,
voilà.
Une fois sur trois, ce ne serait pas un bon diagnostic.
Exact. Donc, ça nous amène à... Je trouvais que c'était important. Et ça nous amène à nous questionner sur, mais qu'est-ce que c'est que l'asthme,
oui,
donc?
Oui, de rappeler un peu
comment on peut diagnostiquer.
C'est quoi cet asthme-là? D'abord, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à quoi? C'est quoi les symptômes?
Bon, les symptômes que ça donne, l'asthme, c'est d'abord avant tout donc des troubles de respiration. Une respiration classiquement qui va être sifflante, on peut se sentir oppressé, tousser aussi, et puis bien sûr, essoufflé. Mm-hmm. Alors, mais la première chose qui est importante, tout ce qui tousse et qui siffle et qui sille, ce n'est pas nécessairement de l'asthme.
Première chose. D'où à dire, donc, même aux médecins qui diagnostiquent trop vite. Peut-être.
Oui, mais en fait, donc, oui. Et aux gens. Et d'abord, ça peut être une inflammation passagère après une grippe qui peut nous amener à avoir les bronches plus sensibles, ou encore la bronchite chronique, je dirais, qui est la cousine de l'asthme sans en être, qui est aussi difficile souvent à différencier de l'asthme.
Mm-hmm. C'est ce qu'on appelle l'emphysème?
L'emphysème et la bronchite chronique.
Ce sont deux sœurs.
Oui, deux sœurs, maladie pulmonaire obstructive chronique.
Mm-hmm.
MPOC par leur petit nom. Donc, voilà. Alors, tout ce qui cille et tout ce qui nous essouffle n'est pas nécessairement de l'asthme.
Alors, qu'est-ce qui est de l'asthme?
Bon, c'est ça. Alors, de l'asthme, en fait, c'est une réaction qui est une hypersensibilité, les gens qui ont les bronches sensibles et après avoir été exposés ou à des choses irritantes ou encore à un allergène, il se produit une réaction inflammatoire. Donc, l'asthme, c'est une réaction inflammatoire. Il y a du mucus qui s'installe et qui ensuite produit une constriction des muscles autour de nos bronches.
Mm-hmm.
On a des muscles autour de nos bronches et qui, là, va causer le sillement, les difficultés respiratoires.
D'accord.
Donc, c'est vraiment une réaction inflammatoire, l'asthme.
Mm-hmm.
Et donc, par définition, c'est un phénomène qui peut être réversible. Il faut qu'on comprenne, on a toujours, quand on est asthmatique...
On va pas guérir.
Non, on a la tendance en nous, hein, on a la sensibilité, mais si on prend les médicaments qu'il faut, eh bien, on peut renverser le phénomène, contrôler l'inflammation et retrouver complètement sa fonction pulmonaire.
D'accord. Mm-hmm.
Tandis que les maladies pulmonaires obstructives chroniques, l'emphysème, la bronchite, sont en fait des maladies dont l'inflammation n'est pas à la base. C'est vraiment une destruction des bronches, du D'accord. poumon, suite à des irritants. Et c'est un phénomène qui n'est pas réversible.
Donc c'est comme ça qu'on veut faire la différence.
C'est comme ça qu'on fait la différence. D'accord. Les traitements sont différents aussi.
Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui va déclencher la fameuse crise d'asthme, là, les fameux symptômes?
Bon, la moitié des gens qui souffrent d'asthme, c'est vraiment dû à des allergies. Oui. La vraie allergie. Mais l'autre moitié, c'est vraiment dû à des irritants. Ça peut avoir l'air d'être semblable pour des gens, mais pas le processus allergique comme tel, mais vraiment une sensibilité. Donc, la fumée, les odeurs fortes, la pollution atmosphérique peuvent déclencher des crises d'asthme.
Ça, c'est le déclencheur, mais le terrain au fond de l'asthme, c'est quoi? Familial, souvent,
on dit? Oui. Alors, il y a des antécédents familiaux. Alors, c'est clair qu'il y a une composante génétique. Si dans la famille, il y a du rhume des foins, de l'eczéma et de l'asthme, bien oui. sûr, on a plus de risques de devenir asthmatique.
D'en avoir, oui.
oui. Mm-hmm. Bon, la pollution aussi, ça, il y a beaucoup de recherches là-dessus et c'est une des causes dont on pense qui explique oui. l'augmentation qu'on observe dans nos villes. Et on sait que les gens qui demeurent, par exemple, à proximité de grandes artères dans les grandes villes ont en fait plus oui. de risques de devenir asthmatiques.
Oui.
Bon, certains milieux de travail à cause de polluants dans l'air ou d'irritants et la fumée secondaire.
Ah, toujours elle.
Oui.
Toujours elle.
Et c'est pour ça qu'on insiste tellement avec les enfants pendant la grossesse et aussi dans les familles pour ne pas fumer à la maison, car les enfants exposés à la fumée des parents peuvent devenir asthmatiques plus
oui.
souvent.
C'est, on le dit souvent d'ailleurs, oui. c'est souvent la première cause.
Exact.
Alors, on l'a dit au début, hein, 30 % voilà. de malades, de personnes qui ont été faussement diagnostiquées comme asthmatiques. Comment on fait un diagnostic d'asthme? Est-ce que ça se fait bien?
Bon, la seule façon de vraiment faire un diagnostic d'asthme, c'est de passer ce qu'on appelle une spirométrie, qui est un test où, en fait, essentiellement, on souffle dans une machinerie qui nous permet de voir jusqu'à quel point il y a une obstruction des voies respiratoires. Et ensuite, on donne un traitement, un aérosol, et qui nous permet de voir si on peut effectivement renverser l'obstruction.
Mm-hmm.
Donc, s'il y a une obstruction et si elle est reversible.
Comme on l'a dit tout à l'heure.
Oui, ou encore, parfois, quand c'est un petit peu plus léger, on doit aussi même des tests plus, je dirais, où on peut même provoquer une irritation bronchique pour ensuite voir si lorsqu'on donne un produit, ça c'est reversible. C'est vraiment le critère diagnostique, c'est de pouvoir montrer qu'il y a une 15 % d'amélioration sur une obstruction
Donc
bronchique.
C'est un test objectif.
C'est vraiment un test objectif.
D'accord, oui, c'est important.
C'est ça. Ça se fait dans... Bon, il y a des cliniques dans des laboratoires, aller dans les hôpitaux. Il y a des façons simples de diagnostiquer l'asthme au bureau qui n'est pas tellement... je dirais, utilisé beaucoup ici au Canada en général. Mais je dirais que des études comme celles dont on a parlé pour débuter la chronique incitent à développer peut-être un petit peu plus dans les bureaux des cabinets des médecins de famille je dirais, un équipement léger qui pourrait permettre de faire un diagnostic beaucoup plus précis.
Parce que ça existe, ça aussi.
Oui, en Europe, les médecins de famille utilisent beaucoup la spirométrie au bureau. Donc,
parce
c'est faisable.
Parce que quand on a un diagnostic d'asthme, on a un diagnostic pour une maladie chronique.
Qu'on a pour toute la vie.
Oui.
Donc, pas banal.
C'est un diagnostic important.
Absolument. On doit prendre des mesures, on a des médicaments à prendre et, bon, ça peut avoir même des conséquences sur, si on est jeune, le travail, avoir des assurances, toutes sortes de choses.
Sur votre mode de vie.
Oui, se faire dire qu'on a un problème de santé, bon, quand on n'en a pas, c'est pas bien. Et puis, passer à côté que si on en a, il peut être bien traité non plus.
Exactement.
Donc
Marie-Dominique, en résumé, votre message, c'est à la surveillance de l'asthme, plus active, plus précise, mais surveillons-le bien.
Oui, voilà.
Il faut absolument...
s'assurer que le diagnostic est bien fait. Donc, toute personne là, qui a ce diagnostic devrait avoir une fois dans sa vie une spirométrie.
Merci beaucoup, Marie-Dominique.
Ça m'a fait plaisir.
Et voilà, c'est la fin de la première heure des Années-Lumière. Je vous invite à ne pas manquer ce soir, à Découverte, à la télévision de Radio-Canada à 18h30, le troisième et dernier épisode de la série sur les Galapagos. C'est vraiment magnifique. Mais en attendant, vous restez avec nous en deuxième heure, le Bar des sciences, enregistré cette semaine à Sherbrooke. Les Années-Lumière, deuxième heure. Rebonjour, Yannick Villedieu toujours pour vous présenter la deuxième partie de votre magazine d'actualité de culture scientifique. Alors un seul sujet dans cette deuxième heure, les nanotechnologies, un sujet dont on a discuté il y a quelques jours dans un bar des sciences. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du Bar des sciences Québec Science Radio-Canada, organisée en collaboration avec le Consulat général de France à Québec. Nous sommes aujourd'hui à Sherbrooke, à la microbrasserie, non pas nanobrasserie, à la microbrasserie Bock et Bière, que nous remercions pour son accueil chaleureux. Et nous sommes réunis pour débattre d'une question, d'une grande question, les nanotechnologies, merveilles de la science ou périls invisibles. Alors, pour nous guider dans nos discussions, comme d'habitude, on a des personnes ressources. Il y en a quatre. Je vais vous demander de les accueillir chaleureusement. Je vais vous les présenter. Elles vont se lever. D'abord, Jacques Beauvais, qui est vice-recteur à la recherche à l'Université de Sherbrooke, tout là-bas. Chercheur en génie électrique, spécialiste en nanoélectronique, cofondateur de Nano Québec. Ici, Céline Lafontaine, professeure au département de sociologie de l'Université de Montréal, auteur de la première recherche sur les impacts sociaux des nanotechnologies chez nous. On l'applaudit. Directement de Lyon, en France, Jean-Pierre Cloarec, qui est chimiste à l'École centrale de Lyon, membre de l'Institut des nanotechnologies de Lyon, spécialiste des biotechnologies surtout. Monsieur Cloarec. Et quatrième personne ressource, Claude Stigui, chimiste, directeur du service de soutien à la recherche à l'Institut de recherche Robert Sauvé en santé et sécurité du travail. Alors, on va commencer par un petit tour de table. Donc, on applaudit M. Stigui. Je vais commencer par M. Beauvais, vice-recteur donc, à la recherche et fondateur, cofondateur de Nano Québec. Une petite explication rapide, une nano-explication de ce que sont les nanosciences et les nanotechnologies, M. Beauvais.
La question n'est pas aussi simple qu'elle peut paraître. Souvent, encore aujourd'hui, dans les colloques de nanosciences et de nanotechnologies, on commence par essayer de voir si on est capable de les définir. On parle évidemment de l'extrêmement petit. Rigoureusement parlant, on parle d'objets qui sont de l'ordre de taille de 1 à 100 nanomètres.
Un nanomètre, c'est quoi?
Un nanomètre, c'est un 100 millième du diamètre d'un cheveu.
C'est vraiment petit, petit,
c'est
petit.
C'est petit,
oui.
Mm-hmm. Mais ça dépend de vos cheveux. Le contrôle à l'échelle nanométrique est quelque chose qu'on exerce depuis déjà une couple de décennies. Mais il y a eu des progrès continuels qui fait qu'aujourd'hui, on est capable de contrôler des objets trois-dimensionnellement à l'échelle du nanomètre. Ces objets-là, on les utilise dans une multitude de choses. On les utilise en électronique, on les utilise en photonique, on les utilise dans des applications biomédicales. Donc, c'est vraiment ce contrôle-là de générer des objets qui ont ces dimensions-là, qui ont des propriétés nouvelles, qui nous amène vers les nanotechnologies. L'étude de ces propriétés-là, ça va être les nanosciences. Puis le contrôle de ces objets-là pour faire des produits qu'on peut utiliser pourrait être interprété comme les nanotechnologies.
Et je vous entends parler au présent, ça veut dire que c'est déjà là, c'est pas de la science-fiction. On est déjà avec les nanotechnologies.
On est déjà avec les nanotechnologies, mais on ne rejoint pas encore tous les objectifs de la science-fiction.
Bien sûr. Alors, je passe à Céline Lafontaine maintenant, professeure au département de sociologie de l'Université de Montréal. Madame Lafontaine, vous avez fait une recherche sur les impacts sociaux des nanotechnologies. Il y a déjà des impacts sociaux où on appréhende des impacts sociaux?
Bien, c'est-à-dire que, à l'heure où on se parle, évidemment, il commence à avoir des impacts, en tout cas des questions, mais c'est plutôt les enjeux. Les impacts sont encore à définir, mais là, il y a véritablement des enjeux qui sont liés au développement des nanotechnologies, dont l'un des plus importants, c'est justement comment on définit les nanotechnologies, parce que la définition, elle est loin d'être évidente, comme le soulignait mon collègue, et elle comporte plusieurs enjeux, puisque dans la définition même, il y a une redéfinition complète de la façon de penser la science et la technique.
En quoi ça oblige de repenser la science et la technique? C'est une science ou une technique comme une autre, non?
Les nanotechnologies, dans leur fondement même, sont dans l'interdisciplinarité et c'est une autre façon de penser le rapport à la matière avec justement l'objectif premier, mon collègue l'a bien spécifié, c'est le contrôle de la matière à l'échelle nanométrique, donc du milliardième de mètre. Et dans cette idée de contrôle-là de la matière, il y a toute une redéfinition du rapport à la matière, notamment par un grand débat sur lequel on viendra tout à l'heure, le top-down versus le bottom-up.
C'est-à-dire, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi?
C'est-à-dire que traditionnellement, le travail de la technoscience était dans l'idée d'une miniaturisation. Là, il s'agit de construire des matériaux qui n'existent pas à l'échelle dans la nature, à l'échelle, et de construire atome par atome des nouveaux dispositifs, des nouveaux matériaux, des nouvelles combinaisons qui n'existent pas à l'échelle. Donc, il y a vraiment toute une idée d'un nouvel ordre de contrôle de la matière. Ça, c'est l'objectif des nanotechnologies, mais au cours du débat, on verra que concrètement, le travail bottom-up, c'est-à-dire l'idée justement de contrôler la matière à l'échelle nanométrique, est une des parties de ce qu'on définit comme les nanotechnologies, puisque, si on a le temps d'en discuter, la nanotechnologie, finalement, quand on regarde la diversité des définitions, plusieurs auteurs américains disent que c'est une nouvelle façon de dire technoscience, puisque c'est l'ensemble des...
J'allais dire en quoi c'est différent parce que c'est petit. Au fond, on a toujours fait la science, la technologie depuis pas mal de temps, fabrique des objets qui n'existaient pas dans la nature, les vendent, les proposent, les imposent parfois. Qu'est-ce qu'il y a de si différent que ça, de si nouveau que ça dans les nanotechnologies?
Bien, c'est-à-dire que l'enjeu des nanotechnologies, c'est-à-dire, je dirais le véritable enjeu technoscientifique, c'est celui du contrôle de la matière, mais c'est aussi parce qu'à ce niveau-là, à l'échelle nanométrique, le comportement de la matière se transforme. On accède à des propriétés qui ne sont pas à d'autres échelles. Donc, c'est l'idée d'aller chercher des propriétés différentes. Donc, c'est vraiment... Et l'idée, justement, qu'à cette échelle-là, il n'y a pas de différence. À l'échelle nanométrique, il n'y a pas de nature et d'artifice. Là. À l'échelle nanométrique, on est dans un continuum où le vivant et le non-vivant peuvent fusionner.
Alors, on va continuer notre tour de table avec de table au pluriel, puisqu'il y a beaucoup de tables ici dans la microbrasserie Bock et Bière. On va aller à Jean-Pierre Cloarec, donc chimiste à l'École centrale de Lyon. Monsieur Cloarec, vous êtes un nanotechnologue, on pourrait dire ça.
Bonsoir.
Comme ça. Vous vous reconnaissez dans ce questionnement-là? On est dans quelque chose de très nouveau, de très différent?
Alors, je ne crois pas être un nanotechnologue. À la base, je travaille dans les biotechnologies. Et la biologie, depuis longtemps, on manipule des objets de très petite taille, par exemple des enzymes ou des anticorps. C'est pas ça qui fait qu'on est des nanotechnologues. Ça rejoint la même question que tout à l'heure, c'est-à-dire que la frontière, la définition de ce domaine de la science est quelque chose qui, même chez les spécialistes, est encore nébuleux et difficile à cerner. Ça fait, pour moi, partie aussi des enjeux, effectivement, et des difficultés.
Mais est-ce que le fait que, justement, vous dites... Effectivement, en biologie, on travaille avec des virus, des microbes, des choses vraiment très, très, très petites. Là, on est dans l'infiniment plus petit. Est-ce qu'on arrive à des nouveaux questionnements, des nouvelles possibilités aussi, j'imagine?
Oui, tout à fait. On entrevoit, il y a déjà des gens qui y travaillent, on entrevoit la possibilité d'utiliser des objets biologiques comme de l'ADN ou des enveloppes de virus, non pas parce qu'ils ont un rôle biologique, mais parce que ça peut servir d'outil pour assembler, connecter. Donc on s'en sert comme brique de base. Donc ça rejoint notamment les aspects au niveau du bottom-up. Et à partir de là, ça peut entraîner, c'est une des questions que nous-mêmes on se pose, une confusion entre un objet qui à l'origine est issu du règne vivant, qu'on pourrait considérer comme naturel, mais qui est utilisé de façon complètement détournée pour fabriquer des objets, des propriétés nouvelles. Et typiquement, voilà le genre de question où on fusionne ce qui est naturel, artificiel, et on ne sait plus très bien où on en est.
Oui,
et on a besoin de penser à ça.
C'est ce que disait même Lafontaine il y a deux secondes. Effectivement, on est à la frontière du vivant et du matériel.
Absolument.
On ne sait plus trop où on est. Hein.
Oui, on a besoin de réfléchir à ça pour faire émerger qu'est-ce qu'on a envie de faire avec ça aussi.
Hein. Oui. Alors, on va continuer notre tour de table avec nos personnes ressources, avec Claude Ostigui, donc de l'Institut de recherche en santé et sécurité du travail. Monsieur Ostigui, vous êtes là parce qu'effectivement, il y a des questions de santé et de sécurité qu'on entrevoit déjà avec les nanotechnologies.
Oui, en fait, on est particulièrement intéressé par la question des nanoparticules. Il y a déjà beaucoup d'informations. Il y a déjà beaucoup d'études qui ont été réalisées, principalement sur des animaux. Et il y a déjà énormément de résultats issus. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a plusieurs nanoparticules qui ont démontré des effets toxiques sur différents animaux de laboratoire et sur différents organes de ces animaux-là. Donc, nous, en termes de...
Donc, problème de santé possible, hein, c'est ça?
Problème de santé possible. Maintenant, nous, à l'IRSST, ce qui nous intéresse, évidemment, c'est de mieux comprendre les mécanismes qui peuvent conduire à des effets toxiques, à des effets néfastes sur la santé. Mais notre première préoccupation, surtout, c'est que le domaine des nanotechnologies, la fabrication de nanoparticules, ça implique des travailleurs, ça implique des chercheurs, parce qu'actuellement, au Québec, la population la plus importante qui est potentiellement exposée, ce sont vraiment dans le milieu de la recherche, donc surtout dans le domaine universitaire. Donc, pour nous, ce qui est le plus important, c'est de pouvoir développer suffisamment de connaissances pour pouvoir s'assurer de prévenir le développement de maladies professionnelles. Et c'est possible de le faire, même si on ne connaît pas toutes les propriétés.
Parce que vous dites que ça implique des chercheurs, des étudiants, des professeurs, etc. Donc, il y a déjà des personnes qui sont exposées, là, pour parler en médecine industrielle, là, qui sont exposées aux nanoparticules, des nanotechnologies, parce qu'ils font des nanosciences.
Il y a déjà au Québec des personnes potentiellement exposées aux nanoparticules.
Beaucoup?
Écoutez, on n'a pas fait... on estime qu'actuellement, il y a autour de 200 professeurs-chercheurs dans les différentes universités
donc
au Québec.
Existe.
Auxquels on doit ajouter, évidemment, tous leurs techniciens, leur personnel, leurs étudiants. Donc, c'est sûrement aujourd'hui autour de... On estime, nous, autour d'un millier de personnes à peu près, uniquement dans le domaine de la recherche, sans compter qu'il y a des certaines entreprises qui fabriquent des nanoparticules, d'autres entreprises qui achètent des nanoparticules pour les intégrer dans leur chaîne de production. Donc, au total, on estime qu'il y a peut-être 2000 personnes à peu près qui travaillent
donc
dans
ce domaine. Donc, ça vaut la peine d'y penser.
Alors, vous êtes absolument essentiel pour nous d'y penser.
Vous êtes à l'Institut de recherche en santé et en sécurité du travail. Vous
tout
dites
à fait.
Problèmes de santé potentiels. Est-ce qu'il y a des problèmes de sécurité? On imagine...
Oui, il y a effectivement des problèmes de sécurité. Écoutez, aux dimensions des nanoparticules, si on a par exemple des métaux qui peuvent s'oxyder facilement, on pourrait fort bien avoir une explosion qui arrive si ces produits-là ne sont pas manipulés de façon sécuritaire. Donc, il existe la connaissance existe pour pouvoir manipuler de façon sécuritaire, mais les gens qui travaillent dans le domaine des nanotechnologies, souvent des entreprises émergentes, des nouvelles entreprises, n'ont pas nécessairement cette connaissance-là. C'est pour ça que nous, entre autres choses, on n'a pas uniquement fait des revues relatives aux risques, mais on a publié dernièrement un guide de bonnes pratiques pour justement essayer d'assister ces gens-là pour implanter dans leur milieu de travail, dans le milieu de la recherche, des pratiques qui vont éviter la survenue d'accidents qui peuvent être des explosions, des incendies ou encore le développement de maladies professionnelles.
Alors, quand on dit dans le titre de ce bar des sciences, merveilles de la science, ou périls invisibles, effectivement, vous dites, oui, il y a péril en le laboratoire, peut-être pas en la demeure, mais en le laboratoire. On va tout de suite...
Moi, si vous permettez, je dirais merveilles de la science et périls invisibles gérables.
Gérables. Alors, on va tout de suite dans la salle, les questions commencent. Tout là-bas, madame,
bonjour.
Vous vous présentez.
Bonjour, mon nom est Isabelle Bolduc. Je suis étudiante au doctorat en génie chimique et je fais la synthèse de nanoparticules. Donc, ma question s'adresse à M. Stigui, c'est à savoir, est-ce qu'actuellement, on est protégé en laboratoire avec nos mesures à outrance, parce qu'on ne sait pas trop, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on peut dire que oui, c'est sécuritaire ce qu'on fait ou on ne le sait pas vraiment?
Quand vous dites mesures à outrance, vous voulez dire quoi? Vous avez des masques?
Ah oui, c'est carrément la cagoule avec respiration assistée autonome, parce qu'on est... On a tellement peur qu'on ne sait pas trop, fait qu'on y va à outrance.
Oui. Alors, la réponse de M. Ostigui?
C'est certain que si vous utilisez des systèmes d'adduction d'air tels que vous décrivez, c'est certain que vous avez un facteur de protection qui est excessivement important. Donc, probablement que vous êtes à outrance. Il faut voir exactement dans quelles conditions vous travaillez. Ce qu'on préconise, nous, c'est lorsque c'est possible, ce qui n'est pas toujours le cas, c'est de travailler avec les nanoparticules dans des milieux humides parce que ça va éviter ou ça va limité de façon très, très importante le potentiel d'émission dans l'air. Si vous faites des synthèses directement sur des particules solides avec un potentiel d'émission dans l'air, il faut s'assurer de les contrôler. La protection personnelle, ce n'est pas ce qu'on préconise dans un premier temps. Il faut, je pense, dans un premier temps, avoir des bons systèmes de ventilation à la source. On va travailler, dans la mesure du possible, dans des circuits fermés. Mais effectivement, la protection personnelle peut être excessivement importante.
Est-ce qu'il y a des particules particulièrement dangereuses? Et qu'est-ce qu'on imagine?
Enfin, au niveau des dangers, il y a eu beaucoup d'études de fait. Une des particularités des nanoparticules, c'est qu'elles peuvent se distribuer dans l'organisme sans se dissoudre, donc en restant solide, et traverser à peu près toutes les parois de l'organisme. Il y a même des études qui ont démontré que des nanotubes de carbone peuvent se rendre jusqu'au noyau de la cellule et traverser absolument toutes les membranes. Donc, d'autres nanoparticules sont documentées comme pouvant traverser la membrane hémato-encéphalique, donc se rendre dans le cerveau aussi.
Parce qu'il faut bien donc imaginer effectivement qu'une nanoparticule par rapport à une cellule, la cellule est énorme, est gigantesque.
Est
énorme.
Hein, la cellule est énorme.
Monsieur Cloarec, vous êtes, vous, dans un laboratoire où on fait de la recherche justement sur les nanoparticules. Est-ce que les mesures de sécurité, les risques à la santé, est-ce que tout ça, c'est bien géré pour vous? Est-ce qu'on en tient bien compte?
Alors, moi, de mon expérience, je suis chimiste dans une équipe de chimistes. Donc, on dispose de systèmes de flux laminaires, haute aspirante, etc. On n'utilise pas de système d'aspiration individuelle. Par contre, le danger, c'est que dans un domaine pareil qui est extrêmement pluridisciplinaire, on a des gens dont ça n'est pas le métier de gérer un risque chimique, oui, qui vont intervenir. On a des étudiants qui viennent aussi de diverses origines. Et là, il y a un risque potentiel et on a besoin effectivement d'avoir, à mon avis, une amélioration. De toute façon, on ne peut que faire mieux, oui, là-dessus. Donc la pluridisciplinarité, c'est aussi une vraie difficulté.
Je vois Céline Lafontaine là-bas qui opine du bonnet. C'est vrai que les sociologues ne sont pas très habitués, Madame Lafontaine, à gérer le risque chimique ou le risque...
Mais c'était un complément d'information, justement, parce que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'allais voir 20 chercheurs québécois qui travaillent en nanotechnologie. Bon, je fais des grands entretiens. Et une des questions, justement, qui ne paraît pas, ça va dans le sens de monsieur, c'est que l'interdisciplinarité fait en sorte que on a des physiciens, donc avec une formation de physicien, qui vont travailler sur des dispositifs avec des virus ou des ingénieurs qui se mettent à travailler avec du matériel biologique. Et contrairement, par exemple, à un biologiste formé en biologie où il y a vraiment des précautions, on a l'habitude de prendre telle précaution, le chercheur physicien, l'ingénieur n'a pas ces précautions-là. Il travaille avec du matériel biologique et eux-mêmes se disaient, on ne le sait pas, je pense à un en particulier qui est à Polytechnique, qui travaille avec des virus, puis ils n'ont pas les mêmes précautions parce que là, c'est tout le problème de l'interdisciplinarité, comme disait monsieur, qui se pose. Quand on n'a pas la formation, on n'a pas les outils qui vont avec.
Ici, monsieur Cloarec, vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, je rajouterais sur ces questions de pluridisciplinarité que pour nous, c'est un travail de tous les jours. On travaille notamment dans mon laboratoire en lien avec l'Université de Sherbrooke. Hein. On a créé le premier laboratoire international associé qui s'appelle LN2, le laboratoire des nanotechnologies, nanosciences et nanotechnologies. On se forme continuellement et il y a une évolution, c'est-à-dire que quand on rassemble des chimistes, des physiciens, des technologues, des biologistes, eh bien, au fur et à mesure, ça prend beaucoup de temps pour réussir à se former, mais par contre, une fois que la masse critique est amorcée, on a beaucoup plus de capacité à anticiper les dangers au niveau de nos pratiques. Le fait de travailler avec des gens des sciences humaines aussi, ça nous amène, nous, à nous poser ces questions-là, ce qui n'est pas le premier pli qu'on prend au départ.
Alors ici, il y a une question dans la salle. Monsieur, allez-y, vous vous présentez.
Maxime Lévesque. Ma question, c'est une question de sécurité, mais au sens élargi. Quand nos amis, les militaires, vont s'intéresser à cette chose, et je sais que c'est déjà le cas parce que il y a déjà quelques années, je suis tombé sur quelques articles là-dessus. Avec un peu d'imagination, on peut imaginer ce que les militaires peuvent faire avec ça, mais vous chercherez sur Internet.
Oui. Est-ce qu'il y a parmi nos personnes ressources quelqu'un qui s'est intéressé à ce que faisaient les militaires ou ce qu'ils aimeraient faire avec les nanosciences et nanotechnologies? Oui, Céline Lafontaine.
C'est-à-dire, en ce moment, d'ailleurs, c'est le militaire qui subventionne massivement aux États-Unis. C'est plutôt le militaire qui est à l'avant-garde de la recherche en nanotechnologie. Là. Et à ma connaissance, la plupart des recherches portent justement sur les dispositifs de sécurité, donc toute du côté de la microélectronique, les dispositifs de sécurité, et aussi sur l'amélioration des performances du soldat, donc sur les vêtements, toute l'idée toute la question de rendre de plus en plus vulnérable le soldat, et non pas sur... Il n'y a pas beaucoup de recherches au niveau de la défense, c'est plutôt, au niveau de l'offensive, c'est plutôt des recherches militaires dans l'augmentation des défenses américaines.
Dans la protection.
Parce que c'est les États-Unis, vous avez compris, qui investissent massivement, mais vraiment massivement en nanotechnologie.
Qu'est-ce que ça veut dire que les investissements les plus massifs, aux États-Unis en tout cas, soient le fait des militaires, d'après vous?
Ben, c'est pas nouveau, hein, ça date du projet Manhattan. C'est les nanotechnologies représentent à l'échelle internationale l'équivalent de la conquête spatiale dans les années 60. Donc, et évidemment, dans cette optique-là, le militaire a toujours investi massivement en science. Aux États-Unis, il n'y a pas de... C'est pas nouveau. Même ici, au Québec, j'ai rencontré quand même... Et là, j'ai été surprise parce qu'on n'a pas l'impression que les chercheurs québécois travaillent sur les militaires. J'en ai rencontré au moins 3 ou 4 qui...
Sur font... vos 20, sur
ouais,
les 20, oui.
Mais quand même, sur mes 20 chercheurs, il y en avait 3 ou 4 qui avaient des fonds de la défense canadienne.
Alors, ce que vous venez d'évoquer, c'est un peu ce qu'on évoque dans le titre de ce bar des sciences. Il y a des merveilles de la science derrière les nanotechnologies. Jusqu'à maintenant, on a parlé surtout des risques, des problèmes de santé potentiels, de sécurité même. Il y a aussi toutes les promesses, appelons-les comme ça, des nanotechnologies. On n'a pas encore touché à ça. On pourrait peut-être essayer de regarder de ce côté-là maintenant. Peut-être que je relancerai la parole à monsieur Beauvais. Qu'est-ce qu'on veut faire? Vous travaillez surtout en nanoélectronique. Qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on veut faire ou qu'est-ce qu'on rêve de faire avec cette approche-là?
Parmi les premières choses
bien concrètement là, oui.
Parmi
oui.
les premières choses qu'on a faites en termes de contrôle à l'échelle nanométrique, on peut remonter déjà à plus de 20 ans. Puis juste le fait de contrôler des couches minces à l'échelle nanométrique, ça a donné lieu à toute la technologie de la photonique, ce qui veut dire que tout le monde a des matériaux contrôlés à l'échelle nanométrique dans leur maison. Les lasers utilisés dans les lecteurs DVD, les lecteurs CD, c'est tout à la base du contrôle de la matière à l'échelle nanométrique. On n'appelait pas encore ça les nanotechnologies parce qu'on contrôlait l'épaisseur des couches. Maintenant, on commence à contrôler les 3 dimensions des objets nanométriques. Ça nous permet de créer des objets qui conduisent l'électricité comme jamais avant. Donc, on est en train d'étudier, par exemple, des circuits électroniques qui pourraient conduire l'électricité avec des très, très faibles pertes énergétiques, donc qui consomment beaucoup moins d'énergie. Puis bien sûr, on sait qu'aujourd'hui, les problèmes de consommation d'énergie sont cruciaux. On a des multinationales comme IBM qui travaillent des projets de contrôle de l'énergie. On connaît les histoires sur les grappes informatiques de Google qui sont rendus des consommateurs massifs d'énergie. Donc, tous les progrès qu'on est capable de faire de ce côté-là pour réduire la consommation d'électricité, parce qu'on met des nanotechnologies dans les circuits, c'est des avantages. Il y a des choses qui vont encore plus loin quand on regarde. Il y a des chercheurs qui travaillent sur des applications qui touchent les biocapteurs, les biosenseurs, qui là peuvent avoir des retombées importantes de pouvoir mieux diagnostiquer des maladies. Ça, c'est en cours. C'est pas aussi avancé que ce qu'on est capable de faire plus dans les secteurs de l'électronique puis la photonique, par exemple. Mais là, on commence à ouvrir des portes à dire, bon, ben, en étant, par exemple, Jean-Pierre a parlé tantôt de l'utilisation de l'ADN puis du contrôle de ces molécules-là, être capable de mieux identifier les molécules, intégrer ça dans des capteurs pourrait faire en sorte qu'on peut aller chez le médecin puis diagnostiquer un problème en 5 minutes qui pourrait prendre une couple de jours, une couple de semaines, avoir des diagnostics. Donc ça, c'est des potentiels, des portes qui sont ouvertes sur lesquelles les gens travaillent en ce moment.
Ça fait partie donc de ce qu'on appelle les promesses. Je continuerai avec monsieur Jean-Pierre Cloarec, justement. Vous êtes du côté biotechnologie. Alors, du côté là, du bio, là, du vivant,
oui.
Les nanotechnologies, ça nous donnerait quoi? Alors, on vient de l'évoquer, mais plus précisément et plus pratiquement, qu'est-ce que ça pourrait nous donner?
À l'heure actuelle, par exemple, pour les cancers, quand vous voulez diagnostiquer un cancer le plus tôt possible, vous avez encore besoin de faire de l'imagerie. Mais l'imagerie médicale ne vous donne une vision d'une tumeur que quand elle a déjà quelque chose comme 1 mm cube de volume. À 1 mm cube de volume, elle a déjà commencé potentiellement à envoyer des métastases.
C'est déjà pas mal de cellules,
1 mm cube. Hein, donc, ouais. Si on veut détecter des cancers bien avant qu'on ait besoin d'être invasif pour faire le prélèvement ou simplement soigner, eh bien, on va essayer de s'appuyer sur des technologies qui vont permettre de détecter des protéines ou des anticorps présents dans le sang de quelqu'un à partir d'une simple prise de sang. Mais par contre, il y a des quantités de matière qui sont très, très petites à analyser. C'est-à-dire, ce sera quelques anticorps ou quelques copies. À partir de là, il nous faut des moyens de détecter des concentrations très faibles de biomolécules. On espère, et c'est à ça qu'on travaille continuellement, que les micros et les nanotechnologies vont nous permettre d'atteindre ces seuils inférieurs de détection.
Alors, dans le public ici, monsieur.
En fait, un commentaire, Alexandre Bourquevien. Moi, je vais faire l'hypothèse d'une chose. Moi, je crois que nano, là, c'est un exercice de marketing en bonne partie.
Oui.
Et c'est une bien bonne chose pour les sciences physiques parce que je pense que le médical, au cours des années 90, a ramassé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent par un bon exercice de marketing. Il y a une grande partie de ce qui se passe en nano qui est une simple évolution, une progression attendue d'où on peut aller avec la science qui, depuis le microscope électronique et autres découvertes de cette nature, ont permis d'aller plus petit. Mais je pense qu'on fait un grand plat avec nano, entre autres parce que c'est un bel exercice de marketing.
Mais vous êtes étudiant, vous, en quoi? En physique ou en biologie?
Électrique.
En génie électrique. Et vous pensez qu'il n'y a pas quelque chose, c'est pas radicalement nouveau ce qui se passe? Mais...
Il y a des choses magnifiques qu'on peut faire avec ça, mais on pouvait aussi dire, lorsqu'on parlait du micro, qu'on pouvait faire des choses magnifiques avec ça.
C'est vrai. On peut faire des très belles émissions de radio.
Tout à fait. Par exemple, comme vous faites présentement. Merci.
Je retourne donc à notre personne ressource, à Céline Lafontaine. Oui, Madame Lafontaine?
Ben, je voulais réagir justement à la fois sur la question des promesses et à la fois justement sur l'espèce d'effervescence. Et un des enjeux majeurs, c'est la définition. Et cette définition-là des nanotechnologies, elle est intéressante quand on regarde, par exemple, c'est vérifiable à l'échelle internationale, mais moi, je l'ai vérifié ici sur le terrain au Québec, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une définition unifiée, mais il y a aussi le fait que plusieurs domaines se sont redéfinis, c'est-à-dire que les physiciens ont raison, les chimistes, ils ont toujours travaillé à l'échelle nanométrique. À l'échelle de l'atome. Donc, eux, ils vont dire, ben, finalement, on a toujours fait des nanos. Ils vont redéfinir leur programme de recherche en mettant le mot nano pour aller chercher les sous. Hein, j'en ai un physicien dont je tairai le nom qui me dit, ben, si tu veux la définition, je vais dire, ben, c'est une nouvelle façon de dire, donne-moi de l'argent. Mais en même temps, il y a vraiment aussi, là je pense que mon collègue derrière a raison, l'enjeu c'est vraiment le contrôle de la matière qui est autre chose, c'est vraiment au niveau de la manipulation. Mais dans ce domaine-là, on se rend compte que l'aspect définition est vraiment lié aux enjeux, aux ressources, hein, puisque l'effet nanotechnologique, l'ensemble des promesses, l'imaginaire des nanos a drainé l'ensemble des fonds publics. Donc l'ensemble des projets de recherche c'est vraiment se redéfinit en fonction de nano. À chaque année, j'ai un de mes étudiants, je ne me souviens plus, je n'ai pas le nombre, mais c'est exponentiel, le nombre de publications nano. Ce n'est pas parce qu'il se fait plus de nano, c'est parce que tout le monde redéfinit son domaine en fonction des nano.
On met ça dans les mots-clés de l'article. Ouais. Ouais, c'est
donc,
ça.
C'est aussi... Mais sur les promesses des nanotechnologies, je peux vous dire que on voit de tout. Hein. Ça va de la fin de la pénurie mondiale au niveau de l'alimentation jusqu'à l'immortalité.
Pourquoi pas?
En ce qui concerne, par exemple, au niveau biomédical, la question des diagnostics, il y a des questions éthiques très concrètes. C'est que, est-ce qu'on va diagnostiquer des maladies qu'on ne peut pas guérir? Est-ce qu'on va mettre en place... Parce qu'encore, il y a toute la question de ce sont des questions qui se posent. Et la grande question, je me souviens, quelqu'un en pharmacie à l'Université de Montréal qui travaille sur les drug delivery systems, c'est la question de l'accessibilité. Dans un système fini, hein, la question... Déjà, on sait que le système est surchargé, le système de santé, donc l'accessibilité de ces recherches-là, qui, pour l'instant, si je regarde le programme des IRSC en médecine régénérative et nanomédecine, on dit clairement qu'il va falloir aller vers une fusion de la santé publique et vers le privé, puisque ce sont des technologies qui ne pourront pas être soutenues par le système de santé. Fait que ça, c'est une autre question, c'est une question sociologique, mais qui est posée par ces avancées-là.
Dans la salle ici, monsieur, vous vouliez intervenir, vous présenter...
Oui, bonjour, mon nom c'est Jean-Philippe Reed. Je suis un étudiant ici en physique à l'Université de Sherbrooke. Je me considère comme un jeune chercheur. Par chance, sur quoi je travaille n'est pas si dangereux. Mais il y en a d'autres dans le passé qui n'ont pas eu la même chance, comme par exemple Marie Curie, qui a travaillé sur la radioactivité, qui est morte de ça. Et aussi Albert Einstein, qui a travaillé sur une théorie qui a amené à la bombe H. Donc, en fait, qu'est-ce que je comprends, c'est que les chercheurs, que ce soit moi ou tout le monde ici, en fait, sont motivés par leur curiosité. Donc, à quel point ils sont capables d'évaluer à quel point c'est dangereux, les nanotechnologies. Donc, autrement dit, ma question est la suivante, c'est à quel point un chercheur est capable d'évaluer ça, ou bien est-ce que c'est son rôle d'évaluer la dangerosité des nanotechnologies?
Parce que le chercheur, porté par son enthousiasme, pourrait peut-être un peu tourner... comme on dit, les nanotechnologies, le coin des nanotechnologies un peu rond. Peut-être que M. Ostigui, là-dessus, vous répondre. Est-ce qu'effectivement, des chercheurs peuvent, ou des étudiants peuvent répondre à cette question-là?
Bien, j'aurais tendance à dire qu'au Québec, on est relativement chanceux. Relativement chanceux parce que la majorité des universités ont des groupes spécialisés en santé, sécurité au travail, et ces gens-là peuvent aider énormément. Et d'autre part, ces gens-là sont relativement bien informés. Et c'est un, d'ailleurs, des objectifs de l'IRSST, de contribuer à fournir l'information qui peut permettre, justement, à ces spécialistes de santé et sécurité qui sont déjà en milieu universitaire, qui sont là pour vous aider. Donc, un des objectifs que l'on avait, nous, en produisant un guide de bonne pratique, justement, c'est de soutenir ces gens-là en leur donnant des informations vraiment spécifiques au domaine nano pour justement pouvoir s'assurer de bien soutenir et bien protéger l'ensemble des étudiants et du personnel, dans le fond, des groupes de recherche dans les universités. Donc, je pense qu'au Québec, on a ce que ça prend pour travailler de façon tout à fait sécuritaire.
Je continue à regarder dans la salle. Est-ce que... Monsieur dans la salle, à vous.
Mon nom est Georges Legault. Je suis professeur retraité de l'Université de Sherbrooke. Je travaillais en éthique et je travaille encore en éthique. La question des nanotechnologies telle que vous la posez, si on la pose comme merveille et péril, ben, je pense comme n'importe quel progrès que nous avons eu dans notre société, c'est à la fois une merveille et c'est à la fois un péril. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Mm-hmm. Il y a toujours deux côtés à une médaille. Mais la question des nanos que je me pose, moi, à l'heure actuelle et qui n'a pas été encore développée ici ce soir, est davantage celle du produit qui revient dans la société. On a commencé simplement à y toucher tout à l'heure, et avec raison, avec Céline Lafontaine, sur le domaine médical et les coûts. Mais ce sont tous les produits que l'on met dans notre société. Il y a un impact social de tout cela. Avoir un bâton de golf avec des nanotubes de carbone pour que je sois meilleur. Quand on se sert,
c'est formidable
de...
pour un professeur retraité.
Ah oui, oui, non, mais c'est là, c'est toujours dans notre société, c'est ça qui est merveilleux. Comment on prend tout ce beau savoir, mais à quelle fin? Augmenter nos objets de consommation, qu'est-ce qu'on vise à travers tout cela? Parce que un des enjeux fondamentaux de la technoscience à l'heure actuelle, et c'est une des premières questions qui a commencé dans l'émission, est justement qu'on ne cherche plus à connaître pour connaître, qui était le propre de la science. On cherche à connaître pour fabriquer et rentrer dans la sphère de l'économie.
Mais ça, c'est la technoscience. Ça fait quand même quelques semaines qu'on est là-dedans, hein? Oui.
Oui, mais c'est la technoscience. Mais je vous dirais, si vous passez une entrevue parmi les scientifiques, on va vous dire beaucoup que non, on est encore en science et pas en technoscience. Ce n'est pas tout le monde qui réalise cet impact de la transformation de la science dans nos sociétés. Et d'autre part, ce qui arrive, c'est le clivage qui se fait entre la science qui se développe et la population. Mes grandes craintes sont toujours là. Regardez ce qui s'est passé avec les OGM. Ma crainte, c'est que s'il n'y a pas un accompagnement de la science par des sciences humaines, dans le travail social, on va encore arriver à des heurts entre deux cultures. La science ne peut pas aller seule sans un accompagnement réfléchi de ce qui se passe dans notre société.
Mais est-ce que vous diriez que les nanotechnologies posent des nouvelles questions dans ce domaine-là ou c'est simplement, encore une fois, les mêmes types de questions qu'on repose?
Je dirais que les nanotechnologies ont leur sphère. Parce que comparativement aux OGM, les OGM travaillaient avec du vivant et donc avec des éléments très directement dans notre assiette. Ce que les nanos peuvent faire par des produits, aller du côté de l'objet. Parce qu'il faut bien comprendre aussi dans notre culture occidentale, nous avons une très belle séparation entre l'objet et la vie. Et ça c'est en train de se défaire dans nos cultures. Ah, il y a un impact culturel, il y a des impacts au niveau de nos représentations. Tous ces enjeux-là de la science doivent être traités. Et ils ne peuvent pas être traités après, parce que ça va toujours constituer des freins majeurs à l'acceptabilité sociale de ces
choses. Et vous auriez peur que les chercheurs en nanotechnologie aillent trop vite, finalement, se posent pas les questions et disent « advienne que pourra, nous, on fonce ».
Les chercheurs font leur domaine. Je pose la question, qu'est-ce que la société fait? La question est une question sociale, est une Exactement. Question des intervenants, et pas juste une question des organismes. Parce qu'à l'heure actuelle, on l'a entendu, tout ce qui semble inquiéter le monde, est-ce que c'est sécuritaire? Si c'est sécuritaire, ça va, on fonce.
Exactement.
Alors il y a d'autres enjeux.
Il y a deux réactions qui sont ici. Il y a celle de nos personnes ressources. Il y a Madame Lafontaine, justement, là-dessus, c'est très clair que c'est des questions qui vous intéressent
au plus haut point. Hein,
Il y a deux choses sur lesquelles je veux répondre. Une d'ordre épistémologique, parce qu'il y a une particularité épistémologique au nano. Et sa particularité épistémologique, c'est justement de se définir dans ses origines elles-mêmes. Parce que les origines, c'est presque la science-fiction, c'est Drexler, c'est bon. Il y a vraiment une historique.
Drexler, sur Drexler, donc, qui est le...
C'est un ingénieur, oui, Engine of Creation, qui avait justement cette idée d'un nano-robot, de robot qui pourrait... Qui aurait une capacité d'autoréplication, donc qui pourrait se développer comme la vie elle-même, puisqu'on créerait des organismes qui auraient leur propre autonomie. Et les origines de la nano, et ça, c'est une particularité disciplinaire, il n'y a pas une discipline qui a à son origine un ingénieur visionnaire.
Oui, hein, c'est, publié si en 1986.
Oui, voilà, et c'est à partir de Drexler qu'on a commencé à investir massivement et tout ça, parce que c'est ce phénomène de science-fiction, c'est l'histoire très particulière des nanos. Et Jean-Pierre Dupuis, en France, qui est philosophe,
qui est un
sociologue philosophe, oui. Montre justement qu'un des premiers enjeux, c'est au niveau épistémologique, c'est-à-dire que l'idée des nanos, c'est vraiment à la fois l'idée du contrôle de la matière à l'échelle nanométrique, mais c'est surtout de créer des... L'idée ultime, c'est de créer des robots, des micro-robots, des micros, qui pourraient s'autorépliquer, qui auraient leur propre, pratiquement, l'autonomie. Il y a ça derrière. Et il y a une réduction épistémologique, d'abord au contrôle, de la science au contrôle, et on l'a entendu quand même déjà ce soir beaucoup, le mot contrôle, et aussi cette idée de créer des choses qui deviendraient, qui auraient leur propre autonomie. Ça, c'est la spécificité des nanos. Et de l'autre côté, pour revenir sur la performance, l'autre originalité des nanos, c'est que les nanos, en tout cas ceux qui travaillent vraiment en sciences humaines là-dessus, c'est un autre terme pour définir technosciences, parce que c'est l'ensemble des disciplines qui se repositionnent en fonction des nanos. Et aux États-Unis, il y a un fameux rapport qui a vraiment eu un impact en 2002, NBIC, Nano Bio Info Cogno, et là, c'est la convergence. C'est que les nanotechnologies en tant que telles, ce n'est pas des nouvelles technologies, c'est des technologies habilitantes, c'est-à-dire qui permettent d'améliorer les performances de technologies déjà existantes. Et dans l'idée de la convergence, il y a l'idée d'améliorer l'ensemble des performances humaines par le biais des nanotechnologies. Et là, il n'y a plus de différence entre nature et artifice, et on a l'idée, justement, du post-humain. Et ça, c'est la National Science Foundation qui, en 2002, a mis en place ce programme-là, et ça a un impact assez important.
Autre réaction à cette question qui a été soulevée, peut-être au fond, d'abord, monsieur Jacques Beauvais, autre réaction à cette idée que il faut qu'on se pose des questions socialement, de savoir quelle est la valeur, l'intérêt, l'applicabilité de cette technologie-là avant que le public soit mis devant un fait accompli?
C'est sûr que c'est important. Puis, par exemple, on commence à voir apparaître des groupes de recherche qui sont interdisciplinaires, mais encore plus larges que les chimistes et les physiciens et les ingénieurs, mais qui sont des éthiciens, des personnes en droit, des ingénieurs, qui sont des fois les cobayes des éthiciens et des ingénieurs, et des gens en droit, pour étudier justement les enjeux puis comment ça s'évolue. Mais je dirais que les chercheurs qui travaillent en nanotechnologie sont comme tous les autres citoyens. Il y en a qui font la réflexion de l'impact de ce qu'ils sont en train de faire, puis il y en a qui la font pas. Ceux qui la font, le processus d'accompagnement des gens qui regardent justement les enjeux de la société toute là, je pense que s'il y en a suffisamment, puis je pense qu'il se dessine au Québec, qu'il commence à en avoir suffisamment, ça va nous permettre de justement faire les réflexions à temps. Mais il ne faut pas se leurrer, hein, les chercheurs, pour toutes sortes de raisons, que ce soit curiosité, que ce soit économique, que ce soit autre, avec les moyens qu'ils ont à la disposition en ce moment, ça se développe excessivement vite. Puis si on ne se pose pas les questions suffisamment rapidement, si l'accompagnement n'a pas lieu du côté société, les technologies vont être là avant qu'on aille pu réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire avec.
Ce que disait notre professeur retraité il y a quelques minutes. Il y a quelqu'un dans la salle qui a levé la main justement pour réfléchir là-dessus, pour continuer là-dessus. Madame.
Bonsoir, Chantal Bouffard. Je suis anthropologue et je suis professeure à la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke. J'aimerais juste rajouter aux trois dernières personnes qui ont alimenté cette discussion, que peut-être il serait intéressant d'aller voir comment les jeunes perçoivent. Nous, on pose, à notre génération, on pose une dichotomie entre le sujet et l'objet. On parlait de différence, et je pense qu'il commence à avoir une interpénétration dans les représentations sociales des jeunes que moi, je suis en train d'étudier, et qui est très intéressante. Certains jeunes me faisaient remarquer dernièrement
par rapport à des prothèses qui seraient produites pour remplacer des membres ou pour améliorer la performance, que peut-être que ce qui n'était pas esthétique ou attirant ou séduisant chez les prothèses, c'était qu'on voulait imiter le membre humain, qu'on serait peut-être mieux d'avoir une approche plus artistique, plus design et plus performante. Donc, moi, je pense que en établissant des règles éthiques, il faut aussi aller voir qu'est-ce que les futurs consommateurs de ces bio-nano-géno-technologies pensent et comment ils conçoivent la personne humaine.
Monsieur Cloarec, vous voulez réagir à ça?
Eh bien, sur tout ce qui s'est dit jusqu'à maintenant, moi, je crois que ça, c'est tout l'intérêt de ce type d'activité comme un bar des sciences. Ça nous met, nous, chercheurs, devant la responsabilité, d'abord individuelle et collective, d'aller voir des gens qui sont en dehors directement de notre sphère de travail, de présenter nos résultats, de faire du travail de vulgarisation et de travailler aussi bien avec des gens des sciences humaines, parce que de toute évidence, c'est essentiel qu'on soit amené à développer une réflexion sur toutes ces questions-là, mais tous les citoyens qui, comme nous, se posent ces questions-là. C'est-à-dire que on peut pas rester dans nos laboratoires à travailler sur des choses qui effectivement nous passionnent. On travaille sur des histoires, des cultures disciplinaires qui se sont développées depuis maintenant bien longtemps. Et justement, cette pluridisciplinarité fait que tout à coup, tout ça se mélange. On n'a pas les moyens de prendre du recul. Et ce recul, on ne le prendra pas tout seul. Par contre, on a un devoir de porter ça devant les gens.
Je retourne dans la salle. Madame.
Oui, bonjour, Anne-Marie Desrochers. Je ne connais pas beaucoup de choses en sciences, mais ça m'intéresse beaucoup. Je me demande si on sait qu'est-ce qui arrive aux objets qui ont été faits avec des nanoparticules dans l'environnement. Est-ce qu'on peut s'en débarrasser après? Est-ce qu'ils ont un impact? Est-ce qu'on va faire des montagnes d'objets qui ne se décomposent pas? Ou
c'est intéressant comme question.
On connaît le...
Qu'est-ce qu'on fait après avec après, ces trucs-là?
Voilà.
Oui, est-ce que quelqu'un qui fait des trucs comme ça peut répondre à cette question-là? Est-ce qu'on a, par exemple, une étude de vie du produit avant, pendant, après? Est-ce qu'on a ça? Qui veut répondre? Peut-être, monsieur... je vous envoie la question embêtante, monsieur Beauvais.
Oui, vous m'envoyez la question embêtante. On n'a pas toutes les réponses à ces questions-là, mais il y a des bonnes pratiques en ingénierie qui s'appellent l'ingénierie simultanée, où on aborde le produit de sa conception jusqu'à sa fin.
Le cycle de vie. Hein?
C'est ça. Ouais. Et puis, il y a beaucoup de chercheurs qui commencent à s'en préoccuper. Toutes les questions de développement durable rentrent dans cette discussion-là. On en a une grande préoccupation, mais on n'a pas toutes les réponses encore.
Alors, une autre question ici dans la salle, madame.
Oui, Fanny Lebrun en communication scientifique. Et c'est ça, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on fait pour communiquer les enjeux et les bienfaits de ces nanotechnologies et qu'est-ce qu'on fait avec les commentaires de la population.
Au-delà des barres de sciences qu'on fait en ce moment et qu'on va diffuser, et voilà. Qu'on diffuse à Radio-Canada, mais est-ce qu'effectivement il y a des entreprises, des méthodes de communication? Est-ce qu'on veut effectivement parler de ça au public? Il n'y a pas vraiment de réponse. C'est une bonne question. Autrement dit, vous dites qu'on devrait le faire, hein, c'est ça. Mais je pense que les journalistes doivent le faire. Monsieur, ici.
Je pense qu'un bon exemple...
Voulez-vous vous présenter?
Je suis Alain Renaudin, chercheur à l'Université de Sherbrooke. Je pense qu'un bon exemple, c'est que beaucoup de jeunes chercheurs s'investissent dans la vulgarisation scientifique. Il y a notamment à Sherbrooke un festival d'art et de vulgarisation scientifique qui a lieu les 8 et 9 mai de cette année. Ça, je fais un petit peu de pub, mais c'est vraiment pour montrer qu'il y a une grande communauté de jeunes chercheurs qui essayent de vulgariser ce qu'ils font. Ça, c'est vraiment le trait d'union qu'il y a entre le scientifique qu'on va schématiser de non compréhensif avec la personne qu'on va rencontrer dans la rue. Et c'est dans ce type d'exposition que le chercheur va parler à cette personne, qu'il va trouver ses valeurs communes et qu'il va montrer ce qu'il fait.
Monsieur là-bas, au fond.
Christian Desilets, étudiant à la maîtrise en électrochimie. Je pense surtout à piles combustibles bourrées de nanotechnologie, c'est-à-dire de catalyseurs, nanocatalyseurs pour avoir une grande surface, pour pouvoir avoir beaucoup d'électricité à partir de ceci. Mais il y a aussi que je veux rappeler pour les sociologues que dans la fin des années du 19e siècle, il y a eu l'avènement des chaudières à vapeur qui ont été issues du contrôle micrométrique. Donc, il s'agit ici seulement du contrôle d'un ordre inférieur de particules qui vont être encore plus petites. Donc, on peut obtenir comme des technologies issues du contrôle micrométrique qui ont été l'électricité et d'autres technologies qui ont été issues. Donc, il y a beaucoup d'avenir dans ces technologies.
Ici, monsieur, vous voulez reprendre la parole, vous vous représentez quand même.
Oui, Georges Legault. Je voulais juste souligner, à partir de la dernière intervention, comment on retrouve toujours ça, on l'a eu dans le débat avec les OGM. Ce qui est toujours fascinant, c'est comment certaines personnes vont toujours utiliser l'argument « c'est pas nouveau, il n'y a rien là, c'est pas grave, c'est une question de degré. La science bouge d'une question de degré. Il n'y a pas un changement de nature. » Alors que toutes les personnes qui voient des périls vont dire quoi? Il y a un changement de nature.
Oui.
Et ça catalyse toujours les discours. Alors, ceux qui se veulent rassurants vont toujours dire, non, il n'y a rien là, ça s'est déjà fait. Ah, il y avait des nanos, déjà au Moyen-Âge, on savait manipuler les nanotechnologies pour la couleur du calice là, qui changeait de couleur. On va tout minimiser parce que ça existait. Les nanos ont toujours existé, on ne les a pas inventés. La question est que nous avons maintenant un pouvoir nouveau de contrôle, d'aller travailler à ce niveau-là, ce qu'on n'avait pas auparavant. C'est ça qui est nouveau. Tout comme le code génétique, on n'avait pas un moyen de travailler sur le code. Maintenant, on l'a. Ce pouvoir de l'humain de travailler sur la vie et sur la matière, c'est ça qui est nouveau. Et ça inquiète.
Qu'est-ce qui vous inquiète, vous, là-dedans,
c'est
justement?
C'est pas m'inquiéter, moi. Ça inquiète socialement, parce que ce qui inquiète l'éthicien, c'est qu'il sait que tout pouvoir, depuis que l'homme est l'homme, se transforme habituellement en domination.
Alors, donc, on s'en va maintenant vers la toute fin du bar des sciences. Je vais refaire le tour de nos personnes ressources pour leur demander de nous faire quelques petits mots de conclusion, leur synthèse, leurs nouvelles questions, peut-être. Puis je vais le faire, tiens, dans le sens inverse du début. Je vais commencer par M. Claude Stigui, qui est chimiste, directeur du service de soutien à la recherche à l'Institut de recherche en santé et sécurité du travail. Vos mots de conclusion, M. Stigui.
Oui, eh bien, j'ai trouvé l'expérience excessivement enrichissante.
Un bon bar, oui.
C'est très bien, je pense, de partager les points de vue de différentes disciplines. Écoutez, au niveau plus santé, sécurité au travail, c'est certain qu'il y a beaucoup d'études qui démontrent qu'il y a certains risques potentiels associés à certaines nanoparticules. Ce qui n'a pas été mentionné du tout ici ce soir, c'est que déjà, sur le marché, il y a au-delà de 800 produits qui sont disponibles et qui contiennent des nanoparticules. Et on a encore beaucoup d'inconnus relativement, entre autres, au cycle de vie de ces produits-là. Qu'est-ce qui va arriver éventuellement lorsque ces produits-là vont se dégrader, lorsqu'on voudra les éliminer ou les recycler?
Une question qui a été posée et à laquelle on n'a pas répondu, effectivement.
C'est ça. Mm-hmm. Et par contre, notre préoccupation, nous, c'est une partie importante de la population, ce sont les travailleurs. Et pour les travailleurs, il y a moyen de manipuler ces produits-là de façon excessivement sécuritaire. Et déjà, il y a des particules qu'on sait manipuler, qui ont les mêmes dimensions, qui sont ce qu'on appelle des particules ultrafines, qui peuvent provenir d'origine naturelle, comme une partie des fumées de volcan, ou une partie du sable, ou encore d'origine totalement humaine, comme par exemple une partie des fumées de soudage, qui ont exactement les mêmes dimensions. La différence entre les particules ultrafines et les nanoparticules, c'est que dans un cas des particules ultrafines, on parle plutôt de contaminants indésirables, alors que les nanoparticules, on va les synthétiser parce qu'on recherche des propriétés particulières. Mais déjà, on sait maîtriser une, donc on pourra maîtriser l'autre. Donc, on peut travailler de façon sécuritaire, aussi bien en termes de production qu'en termes de laboratoire de recherche.
Merci, M. Ostigui. Je passe à Jean-Pierre Cloarec, chimiste à l'École centrale de Lyon, membre de l'Institut des nanotechnologies de Lyon, en France, bien sûr. Monsieur Cloarec, vos mots de conclusion.
Moi, le point que je retiendrai, c'est qu'on a besoin d'abord de se confronter, de réfléchir entre nous, entre chercheurs, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de points de vue et de perspectives différentes, et on y voit réellement un intérêt, et ça se construit, c'est long à construire, d'où notamment le fait de travailler en collaboration internationale, notamment dans le cadre de CELIA à l'N2. Je crois qu'on a beaucoup de choses à découvrir de ce côté-là. Et puis, discuter avec les gens, prendre des retours. C'est-à-dire pas simplement expliquer aux gens ce que c'est, peut-être pour les rassurer, mais aussi être capable de comprendre qu'il y a des choses sur lesquelles ça vaut pas la peine d'aller. Voilà. Merci
Donc,
beaucoup.
Écouter, être à l'écoute oui. Des gens. Je vous remercie, M. Cloarec. Céline Lafontaine, professeure au département de sociologie de l'Université de Montréal et auteure d'une recherche sur les impacts sociaux des nanotechnologies. Vos conclusions, Mme Lafontaine?
Comme conclusion, je dirais que j'ai senti dans mon travail de terrain, justement, que les chercheurs eux-mêmes se posent ces questions-là parce qu'eux, ils sont aux limites de la matière. La plupart le parlent. Ils sont à des limites. Il y a une nouvelle frontière. Il y a quelque chose d'excitant. Il y a les promesses derrière. Mais eux-mêmes, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils sont quand même assez contents de voir les sociologues, les éthiciens débarquer parce que non seulement ça vient cautionner leur travail, mais en même temps, c'est des questions auxquelles qu'ils se posent, mais auxquelles, évidemment, ils n'ont pas le temps de répondre. C'est pas leur travail. Donc, je pense que c'est le début d'une nouvelle collaboration.
Et le mot de la fin sera aussi celui de votre conclusion. M. Jacques Beauvais, vice-recteur à la recherche de l'Université de Sherbrooke, chercheur en génie électrique, spécialiste en nano-électronique, cofondateur de Nano Québec. Votre mot de conclusion et de fin.
On vit une révolution scientifique et technologique en ce moment. Où elle est exactement? Est-ce qu'elle est dans la taille des matériaux? Est-ce qu'elle est dans les outils faramineux à notre disposition? Est-ce qu'elle est dans la vitesse du changement technologique? Il y a bien des endroits où elle est. Mais on vit aussi une époque où les chercheurs sont conscients des aspects sécuritaires, des aspects de risque, comme on n'en a jamais vécu dans les révolutions technologiques antérieures. Il y a une ouverture au dialogue entre les scientifiques et la société qu'on n'a jamais vue. Il faut que des deux côtés, on soit ouvert à ce dialogue-là et on réponde à l'appel pour s'assurer qu'on progresse ensemble vers les retombées de cette révolution-là.
Eh bien, merci, M. Beauvais. Merci à toutes nos personnes ressources. Merci à vous tous dans la salle. Merci également à nos hôtes de Bock et Bière à Sherbrooke. Merci et à une prochaine pour un autre bar des sciences, Québec Sciences, Radio-Canada, Consulat général de France à Québec. Merci. Et c'est l'heure du passage de Jacques Languirand ce soir. Jacques, à part quatre chemins, vous avez quoi?
Eh bien, on va parler du capitalisme, mais je vous préviens, le capitalisme va passer au cash. À propos de la crise morale, sociale, anthropologique, écologique, de la crise, tout ça. Le capitalisme, autrement dit, vu à travers les lunettes de la philosophie. Pourquoi pas?
Eh oui, pourquoi pas, Jacques? Hein?
À la prochaine, Yannick.
Et ce soir, à part quatre chemins, à 20h, à notre radio. Et voilà, c'est la fin, déjà la fin de cette édition des Années-Lumière, une émission signée Dominique Lapointe, avec la technique Tania Gancheva, journaliste Sophie-André Blondin, Chantal Srivastava, journaliste au site internet Louis-André Bertrand, chroniqueur Marie-Dominique Beaulieu. Je rappelle aux journalistes scientifiques en devenir qu'ils peuvent, j'allais dire, qu'ils doivent participer au concours de la Bourse Fernand Seguin. Tous les détails sont sur notre site internet. Alors c'est Yannick Villedieu qui vous parle. Bonne semaine à l'écoute de la première chaîne de Radio-Canada et revenez-nous dimanche prochain pour une autre édition des Années-Lumière. D'ici là, portez-vous bien.
Au revoir.